Bienvenue dans le débat. Aujourd'hui, on plonge en juin 1969.
Ah oui, une période assez chaotique.
Exactement. La France perd brusquement son père fondateur, Charles de Gaulle, et en toute logique, le régime aurait dû s'effondrer avec lui.
Tout le monde s'y attendait, oui.
Voilà. Mais quelques semaines plus tard, Georges Pompidou s'installe à l'Élysée sans la moindre secousse institutionnelle. Moi, je suis convaincue que cette élection, c'est le triomphe absolu de l'après-gaullisme.
Et de mon côté, je soutiens que ce scrutin miné par une abstention record fut en réalité une victoire de façade, une sorte d'illusion démocratique.
Alors parlons des résultats officiels d'abord. Pompidou rassemble 58,21% des suffrages. Ça fait plus de 11 millions de voix. C'est massif.
Mathématiquement, ouais. Mais politiquement, c'est une autre histoire.
Pourquoi ? La transition s'est faite sans heurts. Le régime a prouvé sa résilience totale.
On ne peut pas parler de triomphe quand près d'un tiers des Français refusent carrément de participer au second tour. C'est une anomalie énorme.
Oui, mais...
Attendez ! La vraie mécanique, ici, elle est dictée par le Parti communiste. Jacques Duclos est éliminé au premier tour et le PCF lâche sa fameuse consigne « blanc bonnet et bonnet blanc ».
Ah, la fameuse phrase.
Voilà. Il renvoie Pompidou et le centriste Alain Poher dos à dos. Et ça ampute l'élection d'une vraie légitimité populaire.
Je ne suis pas du tout d'accord. L'abstention, ce n'est pas une anomalie qui invalide le scrutin. C'est au contraire la preuve de l'habileté politique de Pompidou.
Habileté ? En quoi vider les urnes, c'est de l'habileté ?
Parce qu'il a réussi à anesthésier la gauche post-mai 68. Il a changé la nature du pouvoir. Sous De Gaulle, le moteur, c'était le pur charisme historique, non ?
Oui, la figure de l'homme providentiel.
Exactement. Et Pompidou, lui, avec son passé de banquier chez Rothschild, eh bien, il remplace ce carburant par l'efficacité gestionnaire. Il ne promet plus la grandeur épique. Il promet la société de consommation, l'accélération industrielle, le béton des autoroutes.
Oui, et même une dévaluation monétaire.
Tout à fait, une dévaluation ciblée pour relancer les exportations. C'est cette promesse de prospérité matérielle, très technique, qui a rassuré une France fracturée et rendu l'opposition complètement inaudible.
Mais vous lui attribuez un génie stratégique qui franchement masque la réalité du rapport de force.
C'est-à-dire ?
Ce n'est pas sa vision industrielle qui plie le match, c'est la faiblesse sidérante d'Alain Poher en face.
Poher avait quand même une certaine dynamique au départ.
Non, enfin, c'était juste le président du Sénat qui assurait l'intérim. C'est un modéré, propulsé là par les circonstances. Il n'a aucune machine partisane derrière lui.
C'est vrai qu'il manquait d'envergure.
Totalement ! Il ne pouvait pas dépasser la droite non gaulliste. Pompidou avait déjà accumulé plus de 44% des voix dès le premier tour. Le second tour, franchement, c'était une simple formalité administrative. Le verdict était écrit d'avance.
Une formalité ? Non mais attendez, la plupart des observateurs étrangers prédisaient un chaos total après la démission de De Gaulle.
Ils se sont trompés sur la solidité de l'appareil d'État, oui.
Justement, le fait que l'issue ait semblé couler de source, c'est l'exploit de 1969. La Constitution a prouvé qu'elle n'était pas juste un costume sur mesure pour un militaire.
Sur le papier, le gaullisme survit à son créateur, oui.
Et ça valide la mécanique du suffrage universel direct comme un outil autonome de légitimation ?
Mécaniquement, oui, la transition est fluide. Mais le décalage sociologique est juste béant.
Comment ça, béant ?
Eh bien, on est en 69. La société est urbaine, frondeuse, en pleine mutation après mai 68. Et on a droit à une passation de pouvoir d'une froideur absolue. De Gaulle lui-même est reclus, amer. Il ne prend même pas la peine d'aller voter.
C'est vrai, l'image historique est forte.
La machine étatique tourne, ouais, mais elle tourne à vide. Les chiffres écrasants de Pompidou dissimulent une vraie déconnexion naissante entre le sommet de l'État et la rue.
Mais c'est là qu'on touche au cœur du fonctionnement de la Ve République. L'ingénierie institutionnelle se suffit à elle-même pour transmettre le pouvoir suprême.
Sans véritable consensus social, donc.
Exactement. Ça garantit la continuité de l'État, même si le consensus n'est pas vivant au sein de la population.
Une résilience qui sera vitale 5 ans plus tard, c'est vrai, quand la mort soudaine de Pompidou provoquera un nouveau choc au sommet.
Tout à fait. Mais l'analyse de 1969, à travers ses chiffres et son contexte, nous laisse avec une question fondamentale.
Laquelle ?
Est-ce que la simple survie mécanique des institutions suffit vraiment à garantir la santé démocratique de la société qu'elle gouverne ?
Ça, c'est un débat qui reste totalement ouvert. Il y a encore beaucoup à analyser sur la fragilité de cette période.